France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho, au programme de cette heure que nous allons passer ensemble et en direct, trois rendez-vous pour entendre tous les échos, de l'écho. Un retour sur l'actualité de la semaine pour commencer. Selon l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté en France de 0,9% sur un an en novembre et cette hausse grignote progressivement le pouvoir d'achat des ménages, les contraintes de dépenses et de temps s'intensifient jusqu'à atteindre le budget dédié à l'alimentation. Alors de quoi ces restrictions sont-elles vraiment le signe et surtout quelles sont leurs conséquences? On en parle avec Pierre Madec et Charlie Brocard. En deuxième partie d'émission, on prend du recul et le temps de s'intéresser aux grands mécanismes qui structurent notre économie. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série consacrée à la fabrique de l'expertise économique et on va se demander pour qui cette expertise est-elle produite et qui sont ces experts que l'on voit à la télé et qu'on entend à la radio. Le sociologue Théo Régnier a mené l'enquête. Il sera donc parmi nous aujourd'hui. Enfin, à 14h55, place au nouveau fil de l'écho, nous ferons bon accueil à Alexandra Roulet qui rejoint l'équipe. Une équipe qui cette semaine encore a fait des merveilles. Merci donc à Tina Young qui a préparé cette émission et à Serge Leroy qui la réalise et la met en onde. Mais avant tout cela, une parenthèse comme d'habitude pour revenir sur quelques événements marquants de la semaine passée, car des événements marquants il y en a eu et plus spécialement au niveau des institutions européennes.
Today, the Commission has issued a fine of 120 million euro to X for breaching the Digital Services Act. This is the first ever fine under the DSA.
Vendredi dernier, le 5 décembre, Thomas Régnier, porte-parole de la Commission européenne, a annoncé qu'une amende de 120 millions d'euros allait être infligée au réseau social X. C'est une première dans le cadre du règlement sur les services numériques, le fameux DSA. En cause, un certain nombre de décisions prises par Elon Musk depuis qu'il a racheté la plateforme en octobre 2022. Derrière cette amende, il y a 2 ans d'enquête, plus de 6000 documents accumulés, ce qui témoigne d'une approche très prudente dans un contexte où les réactions côté américain sont très vives. Elon Musk qui a appelé samedi à rien de moins qu'abolir l'Union européenne. Et dans un contexte aussi de tensions commerciales non moins vives, l'ambassadeur américain à Bruxelles, Andrew Putzler, a d'ailleurs déclaré que le DSA était incompatible avec l'esprit de l'accord commercial conclu entre les États-Unis et l'Union européenne sur l'élimination des barrières non tarifaires au commerce, je le cite là. Alors si le dossier a été construit de façon à ce que nul ne puisse remettre en cause sa solidité, le calcul qui a mené à la somme de 120 millions n'a pas été dévoilé. La veille, une autre annonce, moins fracassante peut-être, mais non moins décisive, a également marqué la semaine à la Commission européenne.
Today, the College has adopted our market integration and supervision package, which envisages to remove barriers to a more integrated financial market in the European Union. Choosing to tolerate the barriers and fragmentation we know so well leads only one way, to a Europe that invests too little, grows too slowly and loses ground geopolitically and economically.
La commissaire aux services financiers Maria Luisa Albuquerque, qui s'exprimait donc le jeudi 4 décembre, a dévoilé l'ambition de la Commission européenne de renforcer le rôle de l'autorité européenne des marchés financiers, l'AEMF, ESMA pour son acronyme français, qui pourrait ainsi passer d'un simple rôle de coordinateur à celui de véritable régulateur, ce qu'appelait déjà de ses voeux Enrico Letta en avril 2024. Pour lui, une institution capable de superviser les grandes entreprises du secteur financier de l'Union européenne et la mise en place d'une stratégie d'intégration des marchés de capitaux permettrait de faire avancer un projet vieux tout de même de 10 ans et dont vous en avez déjà parlé ici à de nombreuses reprises, celui de l'union des marchés de capitaux. Alors pour l'instant, l'idée dans ce qui a été annoncé jeudi, c'est que l'ESMA soit chargée de la supervision et de l'octroi des licences d'exercice pour les prestataires de services liés aux crypto-monnaies, c'est le terme officiel, ainsi que de la surveillance de toutes les infrastructures de marché significatives. Alors la France est pour, forcément l'ESMA est située à Paris, le Luxembourg beaucoup moins, on le comprend, l'Allemagne est prudente, bref, il reste encore du chemin à faire, mais l'idée est là. Mais il y a, comme toujours, lorsqu'on parle du financement du tissu productif européen, un sentiment d'urgence à agir, et l'actualité industrielle de la semaine passée l'a montré. Mardi dernier, ArcelorMittal a dévoilé ses nouvelles lignes de production d'acier électrique à Mardic, près de Dunkerque, soit un investissement de 500 millions d'euros, le plus important du groupe en Europe depuis 10 ans, comme ne cesse de le répéter ce fameux groupe, groupe dont l'Assemblée nationale a tout de même voté la nationalisation des actifs français fin novembre face aux difficultés qui s'accumulent. Côté allemand, le secteur de l'acier chantier n'est pas non plus brillant. Lundi 1er décembre au soir, un accord a été signé entre les syndicats de ThyssenKrupp qui prévoit la disparition de 11 000 emplois d'ici 2030. Une étape de plus dans le très long déclin du groupe selon Le Monde. Le Monde qui nous emmène aussi cette semaine au cœur du technopole de Lannion dans une très longue enquête qui retrace la place historique qui occupe l'entreprise finlandaise Nokia qui a annoncé le 19 novembre dernier un 7e plan de suppression de postes. 84 seraient concernés à Lannion. Or, le technopole de Lannion en 1992, c'était ça.
Chaque année, depuis 8 ans, une dizaine de nouvelles entreprises viennent s'installer sur le site de Lannion-Trégor. Toutes travaillent dans des techniques de pointe, électronique, informatique, optronique. Une PME comme Sisélog va passer de 30 emplois à une centaine d'ici la fin de l'année. Il faut dire que toutes ces entreprises trouvent autour de Lannion un environnement favorable à leur développement.
En 4, 5, 6 ans, disons, on a créé 1000 emplois, on a implanté plus de 60 PMI de haute technologie qui sont maintenant en complète synergie avec un centre de recherche comme le CNET, avec des écoles d'ingénieurs comme l'ENSAT. Donc on croit en cette région.
Implanté sur plusieurs sites, dans un triangle Lannion-Guingamp-Tréguier, le nouveau technopole devrait être l'outil qui manquait à cette région pour réussir sa mutation.
L'enquête du Monde donne la parole à des ingénieurs et des chercheurs qui ont connu cette époque et qui envisagent pourtant de prendre le plan. Ce n'est pas une belle façon de partir. Je n'avais pas l'intention de finir ma carrière comme chômeur, résume l'un d'eux. Ne pas partir, c'est aussi le combat de quelques 200 personnes qui ont manifesté à Nouméa pour demander à l'État de soutenir la Nickel Mining Company qui pourrait fermer ses portes d'ici 15 jours, selon un délégué syndical de l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités. Et je vous renvoie, auditeurs, auditrices, à l'émission que nous avions consacrée l'année dernière à l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie et je referme là cette parenthèse. Place à notre sujet d'actualité du jour face à l'inflation. Le budget des Français est-il arrivé à un point de non-retour ?
La dynamique induite par les transformations de la distribution.
Michel-Édouard Leclerc, le 1er décembre.
L'arrivée des plateformes du web très dynamiques et très perturbatrices. Le fait aussi que les grandes marques industrielles en aient pris un sacré coup après 22% d'inflation en 2 ans où ils ont tapé, les grandes marques ont tapé le portefeuille du consommateur. Tout ça, ça se recale. Et je pense qu'on va arriver. On va pas restituer les hausses d'hier, mais je pense que c'est calmé.
Or, souvenez-vous, il y a quelques années, on avait une augmentation forte, des prix de l'alimentation, par exemple, dont vous parlez.
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, le 6 juin.
On ne reviendra pas en arrière. D'ailleurs, heureusement, entre-temps, les salaires, les retraites ont aussi monté. Ceux-là ne reviendront pas en arrière. Mais la hausse est devenue contrôlée, maîtrisée comme nous le souhaitions.
Un budget qui impose une violente cure d'austérité aux travailleurs et aux travailleuses et qui nous impose une année noire en 2026.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Le 2 décembre.
Ça serait non seulement un budget injuste et violent pour les travailleurs et les travailleuses, mais un budget mauvais pour l'économie, avec un effet récessif très important. Parce que des travailleurs et des travailleuses dont le pouvoir d'achat baisse, ça veut dire moins de consommation.
C'est une batterie de signaux pas si faible. Ici, on entend que le pouvoir d'achat s'est nettement replié, en baisse de 0,3%. Là, ce sont les dépenses de consommation qui augmentent de l'ordre de 0,4% sur un an. Ailleurs encore, ce sont les banques alimentaires qui alertaient lors de leur collecte annuelle le 28 novembre dernier que la demande est en ce moment très forte et leur rayon très vide. En juillet dernier, l'INSEE alertait le taux de pauvreté en France avait atteint son plus haut niveau depuis 1996, année de lancement du décompte, et se situe désormais à 15,4%. Plus inquiétant encore, selon Nicolas Duvoux, président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le niveau élevé du taux de pauvreté en conditions de vie, qui mesure des privations matérielles et sociales. C'est donc toute une partie de la population française qui se prive, qui rabote surtout son budget consacré à l'alimentation. Alors de quoi ces renoncements sont-ils le signal ? De revenus qui ne suivent pas le niveau des prix ? De dépenses contraintes qui ne portent que trop bien leur adjectif ? Quand l'alimentation devient une option, qu'est-ce que cela nous dit de la réalité économique à laquelle est confrontée la population française? Réponse aujourd'hui avec deux spécialistes de la question, Pierre Madec et Charlie Brocard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre Madec, vous êtes avec nous à distance. Vous êtes économiste à l'Office français des conjonctures économiques, l'OFCE. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Charlie Brocard, vous êtes chercheur et spécialiste des questions liées à l'alimentation au sein de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors Pierre Madec, il faut commencer par bien comprendre ce dont on parle, dans quelle temporalité on se trouve. Le 28 novembre dernier, l'INSEE publiait un ensemble de chiffres, dont ceux de l'inflation. Selon eux, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% en novembre 2025. C'était également vraiment le cas en octobre. On pourrait parler de stabilisation. On l'entendait dans l'extrait sonore juste avant mon introduction. Il y a une forme d'idée que les choses effectivement se sont calmées par rapport aux années 2022-2023 où les taux étaient beaucoup plus de l'ordre de 5,2%, 4,9%. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui, le 8 décembre 2025, des effets de l'inflation sur le budget des ménages?
Alors, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la question de la dynamique. En effet, le gouverneur de la Banque de France le disait dans votre sonore, on a une dynamique qui se calme. C'est-à-dire que globalement, les prix arrêtent de croître à un niveau extrêmement élevé. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Le problème, c'est que ce qui compte dans le budget des ménages, c'est le niveau des prix. Et ça, on est à un niveau des prix qui, par nature, est historiquement élevé. Et on a un revenu, on reviendra sur après comment on mesure les prix, les questions de pouvoir d'achat, mais on a un revenu qui a eu du mal à s'ajuster, qui s'est pas suffisamment ajusté pour un certain nombre de ménages. Quand on voit les déclarations, notamment de la grande distribution, ils disent bien les prix vont pas baisser. On a une stabilisation des prix, mais on reste à des niveaux de prix qui sont extrêmement élevés par rapport au niveau des revenus, et c'est ce qui peut expliquer un certain nombre de privations.
On va revenir sur cette distinction et bien comprendre si le problème est effectivement celui des prix, et notamment de l'alimentation, ou si c'est effectivement celui des revenus qui ne suivent pas finalement le rythme de ces prix. Avant cela, Charlie Brocard, est-ce qu'on peut se dire que la temporalité, elle est importante aussi parce qu'on se situe aujourd'hui dans un moment où on est presque enfin, j'ai envie de dire, en mesure de faire l'état des lieux justement de ces années de hausse de prix que j'évoquais et qui sont très liées au choc du Covid dans un premier temps, de la guerre en Ukraine également. Est-ce que c'est maintenant que les effets se font ressentir? Est-ce qu'il y a une forme d'effet de traîne finalement qui fait qu'aujourd'hui, en décembre 2025, on prend conscience d'un certain nombre de choses?
Alors je pense que les effets, ils ont été ressentis assez rapidement en réalité, notamment sur l'alimentation. Dès 2022-2023, c'est là où on a les changements de pratiques les plus forts, parce que c'est à ce moment-là que l'inflation est la plus forte et aussi que les discours sur l'inflation dans les médias sont aussi prégnants. Alors aujourd'hui, c'est toujours intéressant d'en parler parce que c'est là où on a accès à des données auxquelles on n'avait pas forcément accès en 2022-2023, puisque ces données-là, pour les obtenir, il y a toujours un effet de décalage. Et donc aujourd'hui, on a accès de manière un peu plus fine aux impacts sur les pratiques, à la fois en déclaratif, mais aussi sur les budgets, sur les dépenses des ménages. Et donc ça nous donne quelque chose de supplémentaire pour avoir une sorte de diagnostic un peu plus fin de la situation.
Et bien alors justement, rentrons dans la finesse de ce diagnostic. Pierre Madec, quand on lit les documents de l'INSEE, publiés notamment le 28 novembre, on lit que les dépenses de consommation des ménages en biens ont augmenté de nouveau en octobre, de 0,4% sur un mois, après 0,3% en septembre. Très concrètement, qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce qui continue d'augmenter quand on parle d'augmentation des prix? Est-ce que ce sont ceux justement de l'alimentation dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ceux de l'énergie? Est-ce qu'on est capable de bien mesurer ce qui pèse finalement sur le budget des ménages?
Sur les dynamiques de prix, on est capable en effet d'avoir un peu de recul, et notamment on voit bien que dans la séquence inflationniste, il y a d'abord une envolée des prix de l'énergie, puis une transmission de ces prix de l'énergie dans les prix alimentaires. En effet, sur les prix, on a presque une vision un peu en temps réel de ce qui se passe. Le problème, c'est, si on veut appréhender ces questions de pouvoir d'achat, c'est ce qui se passe sur la partie revenu et notamment sur les questions d'hétérogénéité entre ménages. On sait que l'inflation a pas touché de la même façon les ménages. Si aujourd'hui, en effet, on peut essayer de faire un bilan de cette crise inflationniste, il faut regarder un peu finement ce qui se passe dans le budget des ménages. On n'a pas tous la même part, par exemple, de dépenses alimentaires dans notre budget. Si vous êtes une famille, vous allez avoir des dépenses alimentaires plus importantes. Si vous êtes contraint sur votre partie logement, par exemple, on discutera peut-être des questions de logement après, mais si vous êtes contraint sur votre partie logement parce que vous avez un loyer très élevé ou un remboursement d'emprunt très élevé, vous allez avoir une part mécaniquement des autres dépenses qui va être plus faible. Si vous vivez en commune rurale, ça c'est assez bien documenté, vous avez subi un choc inflationniste beaucoup plus important parce que vous avez des dépenses de transport qui pèse beaucoup sur votre budget. Donc on est capable assez finement de regarder ce qui s'est passé dans les dynamiques de prix. Notamment, on a bien vu les ajustements sur les prix alimentaires qui se sont traduits par une baisse de la consommation des biens alimentaires en volume. Par contre, il nous manque encore un peu de recul pour regarder en fonction des catégories de ménages comment le choc inflationniste a été absorbé.
Charlie Brocard, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous vous êtes intéressé dans une étude qui a été publiée avec deux autres de vos collègues de l'IDRI à la question de l'alimentation, c'est qu'effectivement on a vu des changements de comportement assez importants de la part d'un grand nombre de ménages. Vous le dites, plus de 70% des ménages déclaraient avoir changé leur comportement à cause de l'inflation depuis un an en décembre 2022, avec une surreprésentation des foyers les plus modestes, des foyers avec enfants et des moins de 35 ans. Pourquoi se concentrer sur cette question de l'alimentation, Charlie Brocard? Parce qu'on pourrait se dire, bon, les prix de l'énergie aussi ont augmenté, donc peut-être que les Français se chauffent moins. D'ailleurs, ça a été documenté, les Français se chauffent moins. Pourquoi se cristalliser ainsi sur la question de l'alimentation? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette question-là?
Je pense que c'est assez intéressant parce que la question de l'alimentation, elle a toujours été considérée, enfin en tout cas depuis quelques années maintenant, comme une variable d'ajustement du budget. On entend beaucoup ce discours-là, c'est une variable d'ajustement. Sauf qu'il faut se poser la question, pourquoi est-elle devenue une variable d'ajustement? Et ça fait référence à ce que Pierre Madet disait juste avant, c'est-à-dire qu'on a des dépenses qui aujourd'hui sont contraintes, qui sont pré-engagées par les ménages, de logement, d'accès à Internet, d'accès à la téléphonie, sur lesquelles elles ne peuvent pas rogner. Alors certes, potentiellement on peut baisser le chauffage, mais ça c'est vraiment marginal par rapport au poids de l'ensemble de la part du logement dans les dépenses. Mais pour l'alimentation, c'est là où il y a directement des effets qui se font sentir sur les pratiques, parce que c'est là où les ménages vont être en capacité de réduire la voilure, c'est-à-dire potentiellement descendre en gamme, ça veut dire baisser le nombre de repas qu'ils prennent, ça veut dire annuler certains achats, par exemple les achats de denrées rares ou chères comme la viande, ou les fruits et légumes qui sont perçus comme des calories chères également. Et là, on a tout un ensemble du coup de pratiques qui se développent pour faire face à cette hausse de prix. Et nous, ça nous intéresse aussi particulièrement dans une démarche où on s'interroge aujourd'hui sur comment aller vers des régimes alimentaires plus sains ou plus durables. Et là, je voudrais rappeler un élément, c'est que la manière dont l'inflation elle est calculée aujourd'hui, c'est autour d'un panier de services et de biens qui correspond à la moyenne de la consommation des Français et Françaises. Ça ne correspond pas à un panier de services et de biens souhaitables. Mmh. Si on avait...
On prend en compte la qualité, par exemple.
Exactement. Mmh. Et si on avait, par exemple, sur l'alimentation, pris un panier de biens et de services qui correspond au PNNS, donc aux recommandations nutritionnelles de l'État, l'inflation aurait été 5 points plus élevée qu'elle n'a été mesurée. Donc là, il y a un enjeu direct pour les changements de comportement, c'est-à-dire que si on veut aller vers des régimes plus sains, plus durables, il faut aussi prendre en compte les données actuelles de la situation sociale qui sont très dommageables, très difficiles pour toute une partie de ménages. Et c'est là aussi où il y a un dernier point qui est important, c'est qu'on voit une extension des situations de privation dans la société, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus simplement les personnes en situation de pauvreté monétaire qui sont à risque en termes de consommation alimentaire et qui ont du mal à faire les changements qui seraient nécessaires dans une optique de santé publique et d'environnement. Mais en fait, c'est maintenant une part beaucoup plus large, qui peut être autour de 30% de la population.
Pierre Madec, bon, il y a la question effectivement de la pertinence de certains indicateurs qui ne prennent pas en compte le souhaitable, c'est ce qu'on vient de dire. Je voudrais revenir quand même sur l'importance de ces dépenses contraintes, puisque ce sont elles finalement qui expliquent les très très fortes inégalités en termes d'accès à l'alimentation. Est-ce qu'il y a véritablement, alors que ce soit sous le coup d'inflation ou d'autres mouvements plus profonds, est-ce qu'il y a vraiment une hausse des dépenses contraintes de façon générale, alors que ce soit le logement, vous commenciez à en parler, ou d'autres natures? Est-ce que c'est le problème n'est pas tant celui des prix finalement de l'alimentation, mais le fait que le reste à vivre se soit largement amenuisé ces dernières années?
C'est certain, c'est-à-dire que cette augmentation de la part des dépenses contraintes, elle est assez bien documentée dans la littérature économique, et ceux qui sont les principales victimes de cette augmentation de la part des dépenses contraintes, c'est principalement les ménages les plus pauvres. C'est eux qui accusent notamment une part du logement dans leur consommation qui est la plus élevée, et l'écart entre... En gros, les 20% ou les 25% de ménages les plus pauvres et les 25% de ménages les plus riches, uniquement sur ce poste logement, c'est en gros les plus pauvres consacrent en moyenne 25% de leurs revenus à se loger, si on prend en compte les dépenses de chauffage, etc. Les 25% les plus riches, on est un peu au-dessus de 10%. Donc on est quasiment du simple au double. Ça change évidemment beaucoup dans ce qui vous reste à consommer. C'est-à-dire que, de fait, vous avez déjà une grosse part de votre revenu qui est consacré à un poste de consommation que vous ne pouvez pas ajuster, mis à part ce qui a été dit en effet sur quelques degrés sur le chauffage. Donc au moment où il y a un renoncement à faire, il faut le faire, on le voit bien, sur les loisirs, sur la consommation de produits alimentaires. Et on a vu d'ailleurs la consommation de produits alimentaires baisser au moment de la reprise de l'inflation. On le voit aussi sur la restauration, sur certains postes comme ça, où il y a du renoncement parce qu'il y a une augmentation très forte des dépenses préengagées.
Cela dit, Charlie Brocard, le phénomène n'est pas entièrement nouveau. Vous le dites aussi dans cette étude sur la période qui va de 1960 à 2022, donc une très, très large période. La part du budget des ménages dédiés à l'alimentation avait déjà fortement décliné, en passant d'un quart des dépenses dans les années 60 à 13,7% en 2008. En fait, on pourrait se dire aussi qu'il y a quelque part une forme de phénomène naturel, finalement, que effectivement certains postes de dépenses deviennent plus importants, l'alimentation moins, les revenus permettent aussi de mieux équilibrer les budgets, mais ce qui se passe en ce moment ne se situe pas nécessairement dans la continuité, on va dire, de cette tendance-là.
Oui, exactement. Et si on veut expliquer justement la baisse de la part de l'alimentation dans le budget des ménages, c'est principalement les questions de revenus et d'augmentation des autres dépenses qui sont à prendre en compte. Et le troisième point, c'est l'évolution des préférences. C'est-à-dire qu'avec la hausse des revenus, il y a effectivement d'autres postes de dépenses qui se développent, donc à la fois de manière contrainte, typiquement la hausse du poids du logement, c'est contraint, ça n'est pas choisi. Et ensuite, il y a d'autres dépenses qui augmentent, telles les télécommunications, les téléphones, etc., qui là augmentent de manière choisie, et pareil pour les loisirs. Mais là où il faut lutter contre une idée reçue qu'on entend souvent, c'est que c'est principalement le poids du logement qui écrase, on va dire, qui mène les ménages à réduire la part dédiée à l'alimentation et non pas les hausses de loisirs ou de télécommunications. C'est vraiment la partie contrainte qui est forte. Par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a eu sur le temps long une évolution des préférences et qu'aujourd'hui, l'alimentation, elle n'est pas considérée comme un budget central sur lequel il faudrait investir plus. Et donc, ça veut dire qu'il y a une tension supplémentaire qui émerge lorsque les prix augmentent, puisque le consentement à payer plus pour son alimentation, il est relativement faible.
Et cette question du consentement, elle est extrêmement importante, elle est très présente aussi dans votre rapport, et c'est une des raisons pour lesquelles il faut, selon vous, s'intéresser à cette question de l'alimentation, c'est qu'elle fait partie d'un pacte, de la même façon qu'on parle de pacte social de façon plus générale, pour parler, par exemple, de la sécurité sociale. Il y a cette espèce de pacte matériel qui constitue, justement, avoir accès à cette alimentation en quantité, mais aussi en qualité suffisante. Pourquoi l'alimentation fait partie déjà de ce pacte selon vous, et puis surtout n'en fait pas nécessairement partie dans, on va dire, le débat public. Bon, c'était posé à une époque l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, mais on ne conçoit pas nécessairement l'alimentation comme un droit. Pourquoi c'est important de la concevoir comme telle selon vous?
Oui, ça c'est une vraie question, parce que la mise en politique de la question alimentaire est tout à fait différente de d'autres questions. Pour prendre une analogie, il y a celle de la mobilité qui est assez intéressante, puisque la mobilité, si elle est comprise comme un pacte, c'est l'idée de pouvoir se déplacer sans entrave, notamment dans un contexte où les distances entre le travail et le domicile s'étendent, du fait de politiques que les ménages ne maîtrisent pas. Et donc on leur dit, vous devez être en mesure de vous rendre à votre travail. Et lorsque la taxe sur le carbone, sur les carburants intervient, alors là il y a une rupture de pacte, puisque les ménages se voient là dans l'incapacité de se rendre à leur travail, alors même que ça fait partie de ce qui est attendu d'eux.
Et ce qui avait été promis.
Et ce qui avait été promis, exactement. De manière macro, bien sûr, personne n'a signé un contrat, mais c'est de manière imagée. Et donc c'est une manière aussi de comprendre la crise des Gilets jaunes, qui a ensuite été racontée en politique comme une rupture de pacte, comme l'État, finalement, n'a pas été en mesure d'assurer un service minimum aux personnes qui soient en mesure de se rendre à leur travail. L'alimentation, c'est un peu différent, puisque du fait de cette baisse dans les dépenses, de cette baisse dans l'intérêt aussi des ménages pour ce poste d'activité, il y a aussi une forme de mise en politique très faible. Et donc certes, on entend beaucoup parler d'inégalité, on entend beaucoup parler de précarité alimentaire, mais on se concentre uniquement sur les situations les plus extrêmes. Et ce qu'on ne regarde pas, c'est qu'en fait, l'ensemble de la population aujourd'hui peut être contrainte à différents degrés. Bien sûr, ça concerne davantage les ménages les plus précaires, et qu'on a des dynamiques dans le système alimentaire qui viennent fragiliser ce pacte alimentation, c'est-à-dire l'accès à une alimentation qui soit sûre, abordable et conforme aux préférences des ménages. Et que une de ces dimensions-là, c'est notamment celle de la dualisation du marché, où on a aujourd'hui deux offres globalement disponibles dans les rayons, une offre de masse accessible à tout le monde et une offre plus à valeur ajoutée, comme par exemple l'offre bio, l'offre locale, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les ménages se distinguent entre ces deux parties-là et que une partie grandissante de la population n'a plus accès à l'offre valorisée, l'offre qui, d'un point de vue social, est aussi valorisée.
Et Charlie Brocard, très rapidement, comment vous expliquez cette invisibilisation du problème, en tout cas cette non-prise en compte politique, cette non-mise en politique ?
Mais je pense que la question, c'est aussi que d'autres thématiques ont davantage pris la lumière.
Et pourtant, le pouvoir d'achat, c'est une thématique qui est extrêmement prégnante, extrêmement présente aussi dans les sujets d'inquiétude des Français et des Françaises.
Oui, mais l'alimentation, à chaque fois, est prise sous vraiment cet angle-là de se concentrer sur les ménages les plus à risque. Et on a tendance à oublier le reste de la population. Et pareil, d'oublier que cette thématique-là d'accès à l'alimentation, elle est importante d'un point de vue social, mais également dans un point de vue écologique. Et donc là, je pense qu'il y a aussi un enjeu à remettre cette question sur le devant de la scène.
Pierre Madec, vous souscrivez à ces propos, une idée d'une alimentation qui serait un impensé des politiques publiques. On n'a tout simplement pas les bons instruments pour faire face à ces questions qui sont pourtant porteuses d'une colère sociale avérée.
Alors oui, bien sûr, je partage totalement. Alors il y a quelques collectivités locales hein, qui, de mémoire, aujourd'hui réfléchissent à ce qu'on pourrait appeler une espèce de sécurité sociale alimentaire. Comment c'est financé, comment tout ça fonctionne, c'est un peu compliqué, mais à la fois pour ramener du local et puis pour essayer de mettre au cœur de la politique publique cette question de l'alimentaire. Je voudrais juste dire un mot sur ce qui a été mentionné juste avant sur la question du transport. C'est-à-dire que là encore, les inégalités sont très grande, à la fois entre les communes rurales et puis les grandes villes, mais au sein des grandes métropoles, c'est encore une fois globalement les ménages les plus modestes qui sont le plus éloigné de leur lieu de travail. On voit qu'on a des distances domicile-travail qui augmentent, tout ça en lien avec des politiques du logement insuffisamment efficaces. Mais cette question du poids du transport dans le budget des ménages, on en a parlé un peu au moment des Gilets jaunes, on en a parlé au moment de la crise inflationniste avec cette espèce de c'était le quoi qu'il en coûte. Donc c'est-à-dire on met des plafonds à la pompe, on met tout ça, mais on n'a jamais vraiment réfléchi à ce que ça voulait dire en termes de pouvoir d'achat, notamment des ménages les plus modestes. Et peut-être que à l'image de l'alimentation, cette question des transports, de la mobilité, doivent être ramenées un peu dans le cœur du débat public et se poser la question de où sont localisés les gens par rapport au bassin d'emploi également.
Et nul doute que nous aurons l'occasion de revenir sur cette question, notamment parce qu'elle va être très présente dans le cadre de la campagne pour les municipales, puisque ça fait partie aussi des enjeux pour les ruralités et c'est souvent rappelé. Un grand merci à tous les deux, Charlie Brocard et Pierre Madec, d'avoir été présents aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Pierre Madec, je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que vous êtes économiste à l'OFCE et je le rappelle parce que justement on va continuer de parler de l'OFCE. On va même se demander pourquoi ses membres, tels que vous, Pierre Madec, participent à des émissions telles que celle-ci. On est très méta aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho.
France Culture, Entendez-vous l'écho. Aliette Ovine.
Suite et fin de notre série consacrée à l'expertise économique, après avoir vu comment de nouvelles institutions ont émergé dans l'entre-deux-guerres, puis de nouveaux outils avec l'âge d'or de la modélisation d'État, pour le dire ainsi, dans les années 50, 60 et 70, et puis la semaine dernière, de nouveaux hommes avec l'émergence de véritables professionnels de l'incertitude, place désormais à de nouveaux publics, car produire une expertise économique, ce ne se fait pas sans raison ni sans but. Or, à partir des années 90, c'est un véritable marché de la prévision qui se met en place et qui s'adapte à une demande de plus en plus variée. Les erreurs des économistes deviennent alors des sortes de défaillances de marché qu'il faut corriger et réguler, et la prévision une marchandise qui se vend bien et surtout dans les médias.
Nous parlions dans le journal des prévisions économiques assez pessimistes pour les 6 prochains mois. Didier Leca a donc à son micro un spécialiste de la conjoncture, Jacques Plassard, directeur du Centre de recherche pour l'expansion de l'économie.
La Commission de Bruxelles vient de publier ses prévisions économiques.
Jean-Paul Bettebès, votre directeur de la prévision économique au Crédit Lyonnais.
Vous êtes professeur associé à l'Université de Paris-Dauphine, c'est à Paris, et vous êtes chef économiste, c'est la traduction de l'anglais, du BIP, le Bureau d'information et de prévision économique. C'est un cabinet d'experts qui étudie à court et à moyen terme, les évolutions de l'économie, secteur d'activité par secteur d'activité.
Patrick Artus, je rappelle que vous êtes le directeur des études économiques à la Caisse des dépôts et consignations.
Le FMI, le Fonds monétaire international, a confirmé hier la bonne santé de l'économie mondiale pour 2004. Enfin, tout de même, lance un avertissement pour 2005, ralentissement en vue, et en général, le FMI ne se trompe pas.
Voilà, ça en fait du monde qui participe en tant que prévisionniste à différents plateaux télé ou radio tout au long des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, on a entendu des noms qu'on connaît, qui ont encore un écho aujourd'hui. Théo Régnier, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sociologue, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris-Dauphine PSL. Vous êtes actuellement, je crois, en train de rédiger votre thèse, ou peut-être même en train de la finir, vous nous le direz, qui s'intitule « Décrire et prévoir en situation d'incertitude, une sociologie de la prévision économique et de sa diffusion en temps de crise ». Pardonnez-moi. Théo Régnier, nous avons vu que non seulement les experts économiques sont des prévisionnistes et des prévisionnistes qui se trompent, donc des experts qui se trompent potentiellement, mais malgré ça, et c'est ce qu'on entendait, ils sont sollicités de toutes parts, dans l'espace public, en privé aussi. Est-ce qu'il faut conclure que ces anticipations, même erronées, sont essentielles au système économique dans lequel on se trouve aujourd'hui? Et si oui, pourquoi?
Alors c'est une très bonne question. En effet, on a l'impression que le fait de se tromper ne porte pas préjudice aux personnes qui produisent ces discours sur le futur de l'économie. Et pour faire ça, un sociologue allemand qui s'appelle Jens Beckert a développé le concept d'anticipation fictionnelle. Et donc ça, tout simplement, c'est l'idée de se dire que le capitalisme, pour fonctionner, a besoin d'anticipation. Les acteurs économiques, les ménages, les entreprises ont besoin d'anticipation, que ce soit pour des décisions d'investissement, pour des crédits, mais aussi plus largement parce que il y a un enjeu pour ces acteurs, il y a ce qu'on appelle une politique des anticipations, c'est-à-dire il y a des luttes pour savoir quel sera le futur, et chacun va essayer de porter son futur dans l'espace public et médiatique notamment.
Donc vous avez bien évoqué l'enjeu. La question, c'est celle que tout le monde va en avoir besoin. Il y a donc nécessairement une demande, en tout cas on peut la formaliser ainsi. Chacun perçoit son intérêt bien compris d'avoir accès à ces anticipations, à cette forme d'expertise. Donc, on peut imaginer que ça devienne facilement une forme de marché. Est-ce le cas ? Est-ce que parce que tout le monde comprend qu'il y a ce besoin, il y a vraiment une demande qui se formalise ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu les deux. On continue à avoir des prévisions qui sont publiques, accessibles gratuitement, que ce soit les notes de conjoncture de l'INSEE ou même les travaux de l'OSCE qui sont accessibles gratuitement. Mais parallèlement, en effet, on a tout un marché de la prévision économique qui s'est développé avec l'idée selon laquelle les prévisions et de manière plus générale les connaissances économiques peuvent être une marchandise comme les autres.
Pourquoi ça c'est extrêmement important et ça va structurer un peu toute notre discussion, Théoronie, mais pourquoi c'est important d'insister sur la dimension marchande de cette connaissance qui est ainsi produite ? Vos recherches elles se concentrent beaucoup sur la question de savoir pour qui sont produites ces analyses. Pourquoi est-ce que c'est important de se demander qui est le destinataire finalement de l'expertise économique ?
Alors, c'est très important parce que ce qu'on observe quand on regarde la manière dont sont produites les prévisions, c'est que certes, il y a tout un travail qui a bien été décrit dans les émissions précédentes de la série, plutôt d'ordre scientifique avec le recours à des modèles, mais on voit qu'il y a tout un tas d'éléments qui sont extérieurs à ces modèles, à ces modélisations et à ces choix de paramétrage qui viennent plutôt des destinataires avec une anticipation de qui va lire les prévisions, de comment ils vont les interpréter et plus généralement parfois aussi des interventions directes des acteurs, et c'est particulièrement le cas en effet dans les situations marchandes puisque là la prévision elle est achetée directement par un client et donc on retrouve une relation en fait client-producteur où bien évidemment se pose tout un tas de questions propres à la relation marchande, notamment au fait que les prévisionnistes se retrouvent dépendants de leur clientèle, d'une certaine manière.
Alors, pour bien comprendre ce dont on parle, et puis reboucler, effectivement, comme vous le disiez, avec peut-être les émissions précédentes, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément eu le temps de les écouter sur le podcast d'Entendez-vous l'écho, je renvoie tout le monde, il faut analyser comment se compose ce marché. Du côté de l'offre, on l'a vu, il y a toujours les institutions d'État, essentiellement Bercy, puis les instituts qui sont en partie financée par le public, dont l'OFCE, d'où mon pont avec Pierre Madec, qui était né de cet esprit d'ouverture, on va dire, dans les années 80. Il y a également des départements qui sont spécialement dédiés à la prévision au sein de grandes entreprises. Et enfin, dans les années 90, il y a aussi des centres de recherche privés qui émergent et qui sont donc en compétition avec un ensemble d'institutions financières reconnues, toutes celles que je viens de citer. Est-ce qu'on peut parler, Théo Régnier, d'un environnement qui est très concurrentiel à un moment donné ? Est-ce que dans les années 90, il y a cette idée qu'il y a une vraie compétition acharnée pour avoir accès à ce savoir, cette connaissance désormais marchandisée ?
Alors oui, il y a une énorme compétition. Hein. Tous les acteurs dans les années 90 sont d'accord pour parler de plusieurs formules. Il y a l'idée d'un marché étroit de la prévision économique. Il n'y a pas beaucoup d'espace possible pour les acteurs et donc la compétition est très rude. D'autant plus que c'est un marché récent et qu'il faut convaincre de l'intérêt de ces savoirs économiques pour les acteurs. Donc il y a tout un travail de plaidoyer aussi de la part d'acteurs comme quelqu'un comme Albert Merlin qui a été un économiste d'entreprise pour Saint-Gobain pendant plusieurs décennies et qui a vraiment joué ce rôle d'essayer d'aller convaincre les patrons de l'importance des savoirs économiques pour leurs entreprises et donc de l'importance de développer une expertise privée de l'économie.
Et très concrètement, qui se démarque quand on est une entreprise privée, qu'on n'a pas forcément de département de prévision internalisé, vers qui est-ce tourné ? Ce sont plutôt les banques qui inspirent confiance ou d'autres, pas nécessairement l'OFCE qui est en partie public, mais est-ce qu'il y a des acteurs qui arrivent à se démarquer dans cet univers-là ?
Alors, tout l'enjeu pour réussir à se démarquer, en effet, ça va être de proposer des services qui vont vraiment coller aux besoins des entreprises. Et donc là, on va vraiment avoir des acteurs qui vont partir du principe que la prévision doit être opérationnelle directement et donc vont vendre réellement une expertise adaptée aux entreprises. Et c'est ça qui va permettre justement de se démarquer dans ce milieu très concurrentiel et notamment de se démarquer d'une prévision gratuite et accessible gratuitement.
Et puis il y a un événement qui bouleverse la réputation des économistes. On l'a dit dès le début, les prévisionnistes, c'est presque leur métier, se trompent. Avec la crise financière de 2008, ces économistes deviennent ceux qui n'ont pas su ou pas voulu voir les signaux annonciateurs de la crise. Bref, ils se sont trompés dans les années qui suivent. Le constat d'échec, voire les mea culpa de certains d'entre eux se succèdent. C'est ce qu'avait fait notamment Lord Adair Turner, ancien président de la Financial Services Authority. Il était sur France Inter en avril 2017.
Je crois qu'il y a beaucoup de colère. Il y en avait déjà en 2008. Le sentiment était qu'un groupe de personnes qui avaient dit qu'elles étaient très intelligentes et qui ont payé beaucoup d'argent pour faire des opérations extrêmement compliquées dans les salles de trading ont créé quelque chose qui apparaissait comme des instruments très véritablement malins, comme des CDO, des crédits swap et tout cela, et qui rendait prétendument le système financier plus efficace. Et la colère est venue parce qu'ils avaient tort. Et l'histoire que l'on racontait, que la complexité du système financier le rendrait plus sûr, c'est ce qui avait été dit avant 2008. Ben, c'était faux. Et au cœur de cela, il y avait des erreurs intellectuelles profondes, faites non seulement par les participants du système financier lui-même, mais aussi par beaucoup d'économistes, des gens qui avaient remporté le prix Nobel en économie, qui avaient produit des analyses économiques. Pourquoi est-ce qu'un monde financier plus complexe serait un système plus stable? Donc, il y a un degré légitime de colère. En fait, c'est l'économie qui a échoué et la science économique a échoué.
Un coup dur pour la discipline économique dans son ensemble. Théo Régnier, comment relire la crise de 2008 à l'aune de cette nouvelle façon qu'on vient d'évoquer, marchandisée, de produire l'expertise économique? En quoi est-ce un tournant, ce moment de 2008?
Alors, c'est un tournant notamment parce que un des acteurs très importants sur ce marché privé qui s'est développé dans les années 90, ce sont les banques, notamment parce que elles avaient accès à une clientèle assez directement par le fait qu'elles étaient aussi celles qui fournissaient les financements. Donc souvent, elles proposaient tout simplement une offre gratuite de recherche économique qui s'accompagnait d'une offre de financement sur un projet spécifique ou sur des logiques de plus long terme.
Ce qui faisait leur force, d'ailleurs.
Exactement, ce qui faisait complètement leur force, c'est qu'elles avaient donc cette espèce d'avantage par rapport à ces centres privés qui, eux, devaient forcément aller chercher la clientèle par d'autres moyens. Et ce privilège a aussi fait leur faiblesse, puisque justement on les a accusés de ne pas avoir vu venir la crise, parce qu'elles étaient trop proches de ces acteurs, trop proches des marchés financiers, qu'elles avaient trop cherché à produire une recherche économique adaptée aux marchés financiers, au point de compromettre leur manière de faire des prévisions. Donc vous avez en effet, dans les années 2008-2010, les qui suivent la crise des subprimes, de nombreuses critiques. Vous avez par exemple Laurent Mauduit qui a écrit un livre sur les imposteurs de l'économie, dans lequel il a un chapitre qu'il a intitulé « Bankster », donc la contraction de banquiers et gangsters, donc avec vraiment donc une critique assez forte des conflits d'intérêts qui pouvaient exister chez les économistes de banque. Et donc à ce moment-là, il y a eu un besoin dans la régulation de régler ce problème de la connaissance scientifique qui apparaissait un peu en situation de conflit d'intérêts.
Et c'est ça le vrai tournant lorsqu'on lit vos recherches, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément ça en tête quand on se remémore la crise de 2008 et tout ce qui s'en est suivi, mais selon la façon dont vous l'avez étudié, vous dites que le vrai tournant de 2008 finalement intervient plutôt 10 ans plus tard, quand on essaye vraiment de réguler. Et en fait, c'est la régulation qui ne crée pas parce qu'il était déjà présent, mais qui formalise encore davantage le marché. Qu'est-ce qui se passe? Comment on décide de se saisir de ce problème-là? Et puis pourquoi finalement la solution ressemble quand même très fortement au problème?
Ouais, alors bah en fait c'est intéressant. En effet, on a ce retard classique hein, de la régulation suite à la crise qui prend un peu de temps, le temps que tous les pays, surtout que ça se passe à l'échelle de l'Union européenne, donc il faut mettre d'accord tous les pays, etc. Et on a cette réglementation qui entre en vigueur à partir d'une directive européenne, donc en effet dans la seconde partie des années 2010, qui s'appelle MiFID 2. Qui touche tout un tas d'éléments propres au marché financier, mais dans ce qui nous intéresse ici, il y a notamment toute une partie sur l'information économique qui circule sur les marchés financiers. Et ce que nous dit cette régulation, c'est que ce n'est plus possible de vendre de manière dissimulée et gratuite, en fait, une recherche économique avec les produits financiers. Ce qui va donc entraîner la déconnexion, d'une certaine manière, la vente de produits financiers et la vente de connaissances économiques. Et donc là, les banques vont perdre leur monopole sur cette clientèle qui, en fait, avait cet avantage de se dire « bon, j'ai pas besoin d'avoir de recherche économique parce qu'elle vient avec mon mode de financement ». Là, il va y avoir un besoin de trouver une recherche économique indépendante puisque les banques vont devoir faire payer les acteurs pour cette recherche. Et donc c'est en effet là où tous les acteurs indépendants vont sauter sur cette occasion pour dire bah, nous, contrairement aux banquiers qui, vous l'avez bien vu, sont tombés dans ce conflit d'intérêts, de vouloir toujours plus, nous, on est indépendants et on va vous faire une recherche économique qui sera très éloignée de tout conflit d'intérêts potentiel.
Alors Théorinier, c'est vrai que nous, on a peut-être un peu plus de mal à se figurer qui sont ces acteurs indépendants. Est-ce que ce sont des non-connus ou est-ce qu'on parle vraiment de toutes petites structures qui n'ont pas besoin d'être très nombreux pour produire cette expertise indépendante et en tout cas, on va dire, affichée comme transparente? Est-ce qu'on arrive à les identifier, ces acteurs-là? Est-ce qu'ils sont nombreux? Qui sont-ils finalement?
Alors on arrive assez bien à les identifier, après ils sont souvent un peu moins connus du grand public, notamment parce qu'ils arrivent en France un peu plus tardivement, hein. Mais on a des acteurs qui en fait, si on est attentif, passent souvent dans les médias français, les différents plateaux. Donc on a l'un des grands noms en France, ça va être Oxford Economics, qui est à la base un institut britannique, mais qui opère aussi maintenant en France. Mais on a aussi des acteurs qui sont là depuis plus longtemps, dans les années 90, qu'on connaît parfois un peu moins, comme Xerfi ou les Cahiers Verts de l'économie, qui sont en fait des acteurs à plus petite échelle, hein, souvent qui ont peut-être 4, 5 économistes dédiés à l'analyse de la situation économique, mais qui vont proposer des analyses un peu plus sectorielles, des analyses plus centrées sur les besoins des clients, justement, et faire payer précisément des offres pour de la recherche économique.
Donc ce qui se rapproche peu ou prou d'une activité de conseil, finalement. Il y a des parallèles peut-être à faire.
Ouais, exactement. En fait, on retrouve une logique qui est assez similaire à ce que peuvent proposer les cabinets de conseil dans d'autres domaines, que ce soit le conseil en stratégie ou autre. On va retrouver cette même logique avec l'idée que on va avoir des acteurs qui produisent une recherche adaptée aux besoins des clients et donc avec aussi une manière de présenter les choses qui va être propre. On va retrouver beaucoup plus la logique du PowerPoint, la logique de trouver la bonne formule pour que le client soit satisfait. On a vraiment, ça a aussi des effets directs sur la forme des savoirs produits.
Mais dans ce cas-là, c'est intéressant quand même parce qu'on arrive de nouveau à une logique de production d'une connaissance mais qui est produite aussi pour aller dans le sens de celui qui la commande, de celui qui a envie, très clairement, de produire ce que les autres ont envie d'entendre. Est-ce que ça ne pose pas de difficultés? Est-ce que ça remet en cause potentiellement la crédibilité même de la prévision qui est ainsi produite?
Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça ne va pas remettre en cause la crédibilité pour les acteurs qui en profitent, parce que précisément c'est ça qu'ils viennent rechercher, les usagers. Par contre, en effet, à l'échelle de la prévision et des prévisionnistes, c'est quelque chose qui peut être condamné par certains acteurs, et notamment les acteurs publics, qui vont y voir une forme de compromission, le fait de faire quelque chose qui n'est pas la manière de faire des bonnes prévisions, c'est-à-dire de laisser les clients décider des chiffres à la place, justement, des modèles, des logiques considérées comme plus rationnelles.
Et dans quelle mesure, finalement, dans cet univers qui reste compétitif, qui reste un marché, en fait, dans quelle mesure les institutions publiques qu'on a déjà évoquées, finalement, subissent aussi quelque part l'impact de cette modification du marché et elles aussi tentent de s'adapter à une potentielle demande? Dans quelle mesure, parce que ce sont toujours des prévisions qui font foi, des prévisions très crédibles, très solides aussi, parce qu'il y a un peu plus de moyens et d'expérience, ces institutions-là vont se dire, bon, bah, nous aussi, on va essayer d'adapter notre langage, on va peut-être arrêter de produire des rapports de 300 pages très compliqués à appréhender et à comprendre du premier coup. Est-ce qu'eux aussi vont chercher à se rendre accessibles vis-à-vis d'acteurs privés ou pas, mais en tout cas à modifier leur façon de produire des prévisions?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, à mon échelle, je n'observe pas de basculement très, très fort de cette logique du privé vers les instituts publics. Il y a une volonté de la part des instituts publics et des institutions semi-publiques de participer et de contribuer au débat public et donc de toucher le plus grand nombre. Et donc, en effet, il va y avoir des efforts de fait, peut-être sur la forme, peut-être sur essayer d'avoir des formes un peu plus synthétiques. Par exemple, vous allez avoir des petits encadrés qui vont résumer les informations principales au début des 300 pages de la note de l'INSEE. Mais par contre, on reste quand même assez éloigné de ces logiques de produire des chiffres pour des clients, même si, encore une fois, parfois, on peut avoir des logiques de classement, des logiques de comparaison qui apparaissent tout de même parce qu'on parle bien d'une même profession. Donc les acteurs sont quand même, se connaissent. Souvent, ils ont circulé. Hein. Souvent, les acteurs qui travaillent dans les banques ont parfois travaillé au Trésor avant ou à la Banque de France. Donc il y a de la circulation d'acteurs. Donc ce sont un peu les mêmes acteurs. Donc c'est aussi des effets de positionnement et de lieu de travail qui font qu'ils vont produire des prévisions de telle ou telle manière.
Mais vous avez bien rappelé la mission première, qui était aussi celle qui a expliqué le décloisonnement, en tout cas au tout début des années 80, celle de participer au débat public, de l'éclairer aussi grâce à cette expertise. Et c'est ainsi qu'on retrouve ces fameuses institutions publiques dans les médias et au premier rang desquelles on trouve l'INSEE. C'était le cas en 1985 dans Interactualité.
Chacun d'entre nous peut le constater, rien n'est plus difficile que de faire des prévisions en matière économique, surtout à long terme. Qui, par exemple, pouvait prévoir il y a seulement 5 ans que le dollar un jour atteindrait la barre des 10 francs. C'est pourquoi le document que vient de publier l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, prend tout son intérêt et toute son importance. Il y a 20 ans, en 1965, les spécialistes de l'INSEE ont voulu essayer de savoir ce que pourrait être l'état économique et du monde du travail en France en 1985, c'est-à-dire aujourd'hui. Ils ont donc fait des prévisions, ils ont établi des courbes, ils ont avancé des hypothèses. 20 ans après, courageusement, ils ont repris le document pour le confronter à la réalité. Paul Dubois, bonjour. Vous dirigez le secteur des synthèses économiques à l'INSEE. Avant d'entrer plus avant dans la comparaison entre ce que vous aviez prévu et ce qui s'est réellement passé, pourquoi cette exposition au grand jour de vos travaux, avec le risque naturellement de dire vous voyez, les experts, les spécialistes, quelquefois aussi, ils se trompent?
Parce que le commissariat du plan a pris l'initiative de lancer de nouvelles réflexions sur l'avenir à long terme de l'économie et de la société française, et que l'un des premiers actes de cette réflexion était de confronter les réflexions faites dans le passé sur l'avenir à long terme et les réalisations effectives.
Bon voilà, Paul Dubois qui courageusement avait accepté l'invitation d'Interactualité pour justifier les écarts de prévision à 20 ans tout de même d'écart. Et on le dit, hein, c'est courageux, mais la question se pose, Théo Régnier, au-delà de cette raison très conjoncturelle que vient d'expliquer Paul Dubois, pourquoi des prévisionnistes de l'INSEE ou d'importe quelle institution publique, on pourrait penser à la Banque de France par exemple, se rendent-ils dans les médias? On pourrait se dire qu'ils ont tout à y perdre ou presque, alors pourquoi?
Alors, ça va dépendre de chacun des lieux. Hein. Chacun a un peu sa politique de communication, qui est inscrite aussi dans une histoire un peu plus longue. Par exemple, les banques centrales, la Banque de France ne publie ses prévisions que depuis 2015. Hein. Donc, avant ça, on n'avait pas d'informations sur les prévisions de la Banque de France. Donc, c'est cette démarche de transparence des banques centrales, mais qui touche les banques centrales du système européen, des banques centrales, et pas uniquement la Banque de France. Et à l'INSEE, pareil, on a un vrai travail de communication. Hein. Si vous êtes attentive à ce qui se passe, par exemple, sur les réseaux sociaux, l'INSEE répond à beaucoup.
Ce qui leur avait d'ailleurs été reproché, parce que c'était dans un cadre politique très, très spécifique, mais ça leur avait été reproché que s'immiscer en commentaire sur le réseau social X, notamment, ça avait fait débat, tout de même.
Exactement. Et en fait, c'est des acteurs qui sont sur un fil en permanence parce que précisément la transparence et l'indépendance, parfois, sont deux objectifs qui peuvent rentrer un peu en contradiction. Et typiquement, c'était le cas dans cette situation de l'INSEE où on va les accuser de ne pas être indépendants parce qu'ils vont répondre de telle ou de manière à quelqu'un qui a mal interprété un de leurs chiffres ou qui considère comme étant une mauvaise interprétation de leurs chiffres.
Il y a le grand public, on va dire. C'est tout l'objectif d'éclairer le fameux débat public. Mais il y a forcément la courroie de transmission, on va dire, entre la production de l'information et puis ce grand public, ce sont les journalistes. Vous avez, je le disais en introduction, enquêté, Théo Régnier, au sein d'un institut qui reste anonyme. Vous avez enquêté sur le rapport de ces prévisionnistes aux médias de façon générale et puis aux journalistes en particulier. Comment les prévisionnistes, ces experts-là, conçoivent le rôle du journaliste? Est-ce que c'est un échange de bons procédés où ils se disent on a besoin effectivement pour remplir notre mission, par exemple si c'est dans le cadre d'une charte bien établie, ou parce qu'on a ce rôle qui nous tient à cœur, ou est-ce qu'il y a une forme de défiance et on sait que le journaliste est un potentiel biais aussi par rapport à la crédibilité et puis la véracité de l'information? Comment ce rapport se construit-il?
Oui, alors c'est une vraie tension qui existe en fait, hein, et qui en fait est plus générale à la situation d'expertise dans les médias, qui est en effet comment faire pour faire passer son message dans les temps impartis, avec le cadrage de l'émission à tel moment. Et donc en effet, il y a cette tension. Alors ça se gère de plusieurs manières. Bon, il n'y a pas forcément une méfiance, c'est un terme trop fort, mais il y a une attention à se dire ah, peut-être que si je prononce les choses de cette manière-là, elles vont être interprétées de telle manière. Et donc, il y a un travail en amont de se dire comment formuler les choses pour pas qu'elles soient vite déformées, vite transformées, et vite qu'elles circulent vite avec un cadrage qui n'était pas celui pensé initialement.
Il y a la question de la formulation, du langage, bon, ça c'est une chose. Dans quelle mesure correspondre à une forme d'agenda médiatique et donc politique finit aussi par influencer la façon de produire cette connaissance, de produire les prévisions? Est-ce que on observe tout de même un mouvement de ces instituts de prévision qui essayent de se caler plus ou moins, on va dire avec plus ou moins d'acuité, de se caler à un agenda politique. Est-ce que finalement c'est en cela aussi qu'est modifié la production de la connaissance ?
Alors oui, alors modifié ou en tout cas c'est pris en considération dans la production de cette connaissance, avec là encore une tension et deux possibilités, c'est-à-dire soit vous cherchez à coller au cadrage qui vous est donné dans les médias, et dans ce cas-là vous allez être plus facilement invité, etc. Soit vous essayez quelque chose qui est un peu plus subversif, qui est de se dire je vais essayer de porter mon propre cadrage en montrant qu'il est important, et justement parfois ce petit pas de décalage peut justifier le fait que vous allez être plus facilement remarqué. Parce que vous ne dites pas ce que disent toutes les autres institutions dans les médias depuis deux semaines, par exemple.
Alors, on a parlé de la crise de 2008 qui avait constitué un tournant aussi dans l'appréciation qu'on pouvait avoir de l'expertise économique. C'est à l'aune d'une autre crise, alors peut-être pas de la même ampleur, mais tout de même, et beaucoup plus récente, que l'on peut aussi tenter de dresser un état des lieux du statut des prévisionnistes en France. Cette crise, c'est celle du dérapage budgétaire qui a entraîné la création d'une commission d'enquête par la commission des finances de l'Assemblée nationale et dont le but était d'expliquer l'écart entre la prévision de déficit du projet de loi de finances 2024 qui s'établissait à 4,4% et sa mesure publiée par l'INSEE qui était à 5,8%. Alors le 12 décembre 2024, Bruno Le Maire justement s'exprimait devant cette commission.
Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général, Messieurs les Rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, il est très facile de faire porter sur mes seules épaules la responsabilité de la dégradation des comptes publics en 2023 et en 2024. Si facile que tout le monde ou presque, depuis mon retrait de la vie publique, a emprunté ce chemin dans un unanimisme suspect, indigne de notre démocratie. Facile, mais faux. La dégradation brutale des comptes publics en 2023 et en 2024 tient avant tout, et vous le savez tous, à une erreur de prévision des recettes liée à la crise du Covid et à la crise inflationniste. Nous avons réagi vite, nous avons réagi fort, la plupart du temps, contre vous. À partir du moment où il y a eu un écart à la prévision de 42,2 milliards d'euros sur les recettes, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller s'interroger sur le modèle qui aboutit à un tel écart. On doit évidemment regarder de très près pourquoi les modèles ont failli. Les modèles ayant failli, c'est toute la trajectoire de rétablissement des comptes qui s'en est trouvée bouleversée. Ça ne peut pas se reproduire. Il est arrivé qu'à une seule reprise ou deux, je crois, je suis prudent, au cours des 30 dernières années, d'avoir des écarts aussi significatifs par rapport aux recettes, il faut interroger les modèles.
Des modèles donc qui ont failli, une erreur de prévision. Le 25 mars 2025, le co-rapporteur de la commission, Mathieu Lefèvre, avait lui aussi repris cette rhétorique en dénonçant les services de Bercy qu'il avait accusé d'avoir commis une erreur technique lourde. Cette explication vous semble-t-elle entendable, Théo Régnier ?
Alors, je pense qu'elle elle fait partie de différentes justifications qui ont pu coexister sur l'explication justement de ces écarts de prévision. Le souci de cette image-là, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même un enjeu de faire porter la responsabilité sur les techniciens et sur les modèles, alors que pour d'autres acteurs de la commission, par exemple, le problème était plus politique et lié à un choix délibéré de modifier les chiffres, ou en tout cas de taire les écarts jusqu'au moment le plus tardif possible. Mais surtout, ce qu'on voit là dans cet extrait, hein, c'est un rapport à ces savoirs économiques qui est quand même bien particulier. Et c'est là aussi où c'est intéressant de poser la question de qu'est-ce que font les usagers des prévisions de ces prévisions. C'est qu'on se rend compte que en fait, ils sont complètement déconnectés de la manière dont ces chiffres sont produits. Et c'est, si on regarde la commission, c'est assez fantastique de se rendre compte que les députés ne savent pas comment sont produites les prévisions à Bercy. Ça pose des problèmes très concrets, et notamment des surinterprétations qui peuvent amener à disqualifier des fonctionnaires qui font pourtant de leur mieux à Bercy. Et ça, c'est un vrai problème de compréhension entre les producteurs de prévisions et les usagers de prévisions.
Mais d'où l'idée évoquée par certains de rajouter, on va dire, un intermédiaire intermédiaire entre le politique, les députés, et cette production des prévisions, un intermédiaire qui pourrait être, par exemple, le Haut Conseil des Finances Publiques, qui, lui, aurait la vision, on va dire, des deux côtés. Est-ce que ça vous semble être une piste intéressante de rajouter un organe qui, justement, serait chargé du contrôle de, on va dire, la crédibilité de ces prévisions?
Alors, moi, je pense pas, parce que je pense qu'en fait, concrètement, le Haut Conseil des Finances Publiques va juste reproduire ce qui se passe déjà dans la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours remettre en question son indépendance, puisqu'on va dire qu'il est rattaché à la Cour des comptes, que la Cour des comptes porte une certaine vision de l'économie, et donc forcément, il y a un enjeu ici à arrêter de penser qu'on peut produire une expertise indépendante, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est d'essayer de documenter les liens de dépendance qui existent et de replacer les savoirs dans le contexte de production.
Théo Régnier, puisque vous arrivez à la fin de cette série, pour le dernier épisode, je vais vous laisser vraiment le mot de conclusion ultime. Est-ce que vous estimez que les prévisionnistes, même quand ils se trompent, sont utiles? Et si oui, pourquoi?
Alors, je ne dirais pas qu'ils sont nécessairement utiles. Moi, je pense que par contre, ce qui est important, c'est plus généralement ce que vient de dire la situation de prévision économique, où on voit des erreurs et c'est palpable. Et je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus pour penser de manière plus généralement notre rapport à l'expertise dans notre société, et surtout à arrêter de penser ce rapport à l'expertise d'une manière très linéaire, qui serait on produit des savoirs qui sont ensuite interprétés par les politiques pour prendre de l'action. Je pense qu'il faut remettre du politique dans la production des savoirs, et ça permettra d'éviter les problèmes de compréhension qu'on a pu observer dans le cas de la prévision économique, mais aussi dans le cas d'autres formes d'expertise.
Merci beaucoup Théo Régnier d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Je rappelle que vous êtes sociologue, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris-Dauphine PSL. Restez avec nous car on retrouve une autre experte. Il s'agit de l'économiste Alexandra Roulet, professeure à l'INSEAD. Elle est membre du Cercle des économistes et du Conseil d'analyse économique, organisme rattaché à Matignon, justement. Elle a reçu en mai 2024 le prix du meilleur jeune économiste et aujourd'hui, elle se demande si oui ou non les Français travaillent assez.
Le fil écho.
Les Français ne travaillent pas assez. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, plutôt oui si on se compare à nos voisins européens et encore plus par rapport aux Américains. Mais cette phrase n'a pas grand sens lorsqu'elle est énoncée de façon générale. On a en réalité trois faits préoccupants. Premièrement, une difficile insertion des jeunes sur le marché du travail à leur sortie d'école. Deuxièmement, un taux d'emploi chez les seniors, défini comme les plus de 60 ans, plus faible que dans d'autres pays. En 2023, 45% des 60-64 ans en France travaillent, contre 65% en Allemagne et 55% au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce sont des différences considérables. Et pour les plus de 65 ans, les chiffres sont plus faibles, mais les écarts comparables entre la France et les autres pays. Donc, moins de jeunes en emploi, moins de seniors en emploi. Et enfin, troisièmement, les moins diplômés, quel que soit leur âge, sont aussi moins souvent en emploi. Donc leurs heures de travail se sont effondrées de 40% en 30 ans. C'est énorme et bien plus que dans d'autres pays comparables. Donc si on fait la somme de toutes les heures travaillées en France, une année donnée, et qu'on divise ça par le nombre d'habitants, ça correspond à 100 heures de moins par an par habitant que pour nos voisins européens, et 300 heures de moins qu'aux États-Unis. Donc oui, les Français ne travaillent pas assez. Mais ce constat général ne veut rien dire. Ce sont certaines classes d'âge et certains niveaux de qualification qui sont trop souvent exclus du marché du travail. Et alors, c'est grave, docteur ? Bon, d'une part, au niveau individuel, ce non-emploi peut bien sûr être source de difficultés, notamment financières. Et d'autre part, au niveau du pays, le problème, c'est que moins d'heures travaillées signifie moins de cotisations sociales et moins de recettes fiscales. Donc, ça pose un problème pour financer notamment notre modèle social et, par ailleurs, les investissements nécessaires dans la défense, l'éducation ou le climat. Mais attention, le fait qu'il y ait un sujet sur la quantité de travail ne signifie pas que le sujet de la qualité du travail ne soit pas tout aussi important. L'opposition à la réforme des retraites de 2023 peut être lue, par exemple, comme le signe que de trop nombreux Français ne sont pas heureux dans leur emploi. On sait que la France se singularise par un taux d'accidents du travail élevé et par des pratiques de management très verticales. Dit autrement, au siècle dernier, les revendications sur les conditions de travail et celles sur le temps passé à travailler étaient étroitement liées. À l'époque, pour beaucoup de travailleurs, le travail mangeait une grande partie de leur vie. Mais aujourd'hui, la question du travailler mieux reste d'actualité, mais celle de la quantité de travail se pose très différemment. Car le sujet n'est pas que trop de Français travaillent trop, mais plutôt que trop de Français sont exclus des opportunités professionnelles.
Merci beaucoup Alexandra Roulet. Ce fil écho est désormais le vôtre. On vous retrouve donc la semaine prochaine et également sur le podcast qui lui est dédié sur l'application Radio France. C'est aussi l'endroit où vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes.